الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو الثاني والعشرون من شهر رجب لعام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نجتمع في الدرس 62 في شرح كتاب عظيم ألا وهو كتاب التوحيد للعلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Nous sommes le 19 avril 2017 et l'on se réunit aujourd'hui dans cette 62e assise pour l'étude du livre de l'unicité de l'auteur Muhammad, fils de Abdul Wahhab, qu'Allah leur fasse miséricorde. Ceci étant dit, après avoir achevé l'étude du chapitre portant sur le fait de prêter fréquemment des serments, l'auteur, rahimahullah, passe à un nouveau chapitre intitulé « Bab ma ja'a fi zimmatillah wa zimmati nabiyyi » sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc le chapitre portant sur ce que l'on appelle zimmatullah et ce que l'on appelle zimmatu rasouli sallallahu alayhi wa sallam. Wa yuradu bihada al-ahd wal-gharadu siyanatu maqami tawhid في جناب الله تعالى وتعظيمه وتجنب كل ما ينقص ذلك سواء في باب التعبد أو في باب التعامل. Concernant le pacte pris au nom d'Allah et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Abdelrazak al-Badr, qu'Allah le préserve et le récompense avec ses largesses, nous dit qu'il s'agit ici de l'engagement que l'on prend au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il fait partie de la vénération d'Allah azza wa jal et du tawhid de valoriser le pacte que l'on prend au nom d'Allah azza wa jal et délaisser tout ce qui pourrait le corrompre ou l'entacher. Et que ce soit le pacte avec Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire l'adoration que l'on doit vouer à Allah Tabaraka wa Ta'ala, ou le relationnel avec autrui, At-ta'amulu ma'al ghayr, le relationnel avec autrui. La budda min ta'zim al-'uhud, il faut absolument respecter ses engagements, et particulièrement lorsque les musulmans prennent des engagements avec ceux qui ne sont pas musulmans, le musulman doit montrer l'exemple et respecter son engagement. C'est pour cette raison d'ailleurs, et l'on voit le lien entre ce chapitre et le chapitre précédent, que dans le chapitre précédent, l'auteur, rahimahullah, n'est-ce pas qu'il a parlé de kathratul halif, le fait de jurer fréquemment, et que cela n'est pas bon. Cela n'est pas bon, car c'est un manque de comportement envers Allah, subhanahu wa ta'ala. طيب. Le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, a dit, munasabatu hadha al-bab li kitab al-tawhid, le lien entre ce chapitre et le livre. Anna naqd al-uhud fihi naqsun fi al-tawhid. Le fait de ne pas respecter ses engagements, les pactes qui sont pris, revient à diminuer la foi, le tawhid de la personne. لأنه يدل على عدم احترام عهد الله. Car cela indique que la personne n'a pas respecté son engagement avec Allah عز وجل. ومن لم يحترم عهد الله, et quiconque ne respecte pas son engagement envers Allah عز وجل, فإن هذا يدل على نقص توحيده. Cela montre la diminution de son tawhid. وَمَنْ وَفَى بِعَهْدِ اللَّهِ وَعَظَّمَ عَهْدَ اللَّهِ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ تَوْحِيدِهِ هَذَا وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ. Et celui qui tient son engagement envers Allah Azza wa Jal, cela montre que son tawhid est complet. Voilà pourquoi l'auteur l'a cité dans Kitab al-Tawhid. C'est donc un manque envers le tawhid de la personne que de ne pas respecter l'engagement pris au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le shaykh a dit fi dhimmatillah, concernant dhimma d'Allah azza wa jal ou dhimma de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons compris que le terme dhimma al-muradu bihi ou biha al-ahd, ce qui est voulu c'est le pacte, comme l'a noté le Cheikh Salih, hafidhahullah ta'ala, wa baraka fi sihhati. Wa ma jaa ya'ni min an-nahyi 'an naqd al-'uhud min kitab Allah wa sunnati nabiyhi wa ma jaa min al-wa'id fi dhalik. Alaykum assalam. Le chapitre porte donc sur les menaces susceptibles de frapper ou de s'abattre sur celui qui ne respecte pas l'engagement pris au nom d'Allah Azza wa Jal. Subhanahu wa ta'ala. Voilà le but de ce chapitre. Et pour ce chapitre, nous ne lirons que le premier texte qui est un verset de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où Allah tabaraka wa ta'ala a dit وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. Le sens rapproché du verset: soyez fidèles au pacte pris au nom d'Allah après l'avoir contracté et ne rompez pas vos serments après les avoir prêtés solennellement, alors que vous avez fait d'Allah le garant, ou que vous avez déclaré Allah le garant. Certes, il est connaisseur de ce que vous faites. Subhanahu wa ta'ala. Alaykum salam wa rahmatullah. Il y a dans ce verset, fi hadhihi al-aya, ta'zim al-ahdi, wa khassatan 'indama yakunu fihi ayman. Il y a dans ce verset la valeur du pacte pris. Surtout lorsque l'on prononce un serment, la personne s'engage, elle prend un pacte, et en plus de cela, elle jure par Allah Azza wa Jal. C'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jal a dit « Wa awfu bi'ahdi Allah idha ahadtum » c'est-à-dire, traduction rapprochée, soyez fidèles au pacte pris au nom d'Allah. وَلَا تَنْقُضُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا أَخَذْتُمْ عَهْدًا ثُمَّ أَكَّدْتُمُهُ بِالْيَمِينِ فَأَقْسَمْتُمْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Soyez fidèles au pacte pris au nom d'Allah après l'avoir contracté et ne rompez pas vos serments après les avoir prêtés solennellement. Donc il y a deux choses ici, le pacte qui est pris et le fait d'avoir juré par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela doit être respecté car cela fait partie du tawhid. Le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala a dit wa awfu hadha amrun min Allah subhanahu wa ta'ala bil wafa'i bil 'uhud wal wafa'u dhidd al ghadr wal khiyana. Allah nous donne donc un ordre qui est celui de tenir ses engagements et le fait de ne pas les trahir. بِعَهْدِ اللَّهِ الْمُرَادُ بِهِ الْمِيثَاقُ الَّذِي يُعْقَدُ بَيْنَ النَّاسِ وَأَضَافَهُ إِلَى نَفْسِهِ إِضَافَةَ تَشْرِيفٍ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى تَعْظِيمِ الْعَهْدِ لِأَنَّ الشَّيْءَ إِذَا أُضِيفَ إِلَى اللَّهِ فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَعْظِيمِهِ مِثْلُ بَيْتِ اللَّهِ وَنَاقَةِ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ فالإضافة هنا تقتضي تعظيم المضاف فهي تدل على عظم العهد ووجوب احترامه. Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit ce qui est voulu par le pacte d'Allah dans le verset, lorsque l'on lit « bi'ahdillah », traduit approximativement par « le pacte d'Allah », azza wa jal, c'est-à-dire l'engagement que l'on prend envers les gens. Pourquoi est-ce qu'Allah azza wa jal se l'est attribué en disant « bi'ahdillah » au pacte d'Allah ? C'est pour en montrer la valeur. Car lorsque des choses sont attribuées par Allah, dans le Coran ou dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, très souvent, et pas tout le temps, mais très souvent, c'est pour en montrer la valeur. Comme lorsque nous disons d'une mosquée « Baytullah », la maison d'Allah. On a attribué cela à Allah Azza wa Jal. C'est pour en montrer la grandeur. Lorsque nous disons « Abdullah », le serviteur d'Allah, « Naqatullah », la chamelle d'Allah, la chamelle du peuple de Salih, alayhi salam. Cette sorte d'attribution à Allah Azza wa Jal vise à montrer l'importance de la chose. « Iza ahadtum, ay ahadtum » طرفا آخر من الناس وهذا يشمل الذي بين الله وبين خلقه والعهد الذي بين المسلمين وبين الكفار. Lorsque vous vous engagez, c'est-à-dire lorsque l'on contracte un pacte avec une tierce personne, que cette personne soit musulmane ou non, le pacte doit être respecté. L'engagement doit être suivi. ويشمل العهد الذي بين ولي أمر المسلمين وبين الرعية. Ce verset englobe également et concerne le pacte qui doit être entre le détenteur de l'autorité musulmane et le peuple. ويشمل العهد الذي بين أفراد الناس بعضهم مع بعض. Et il englobe aussi le pacte qu'il y a entre les gens. Entre les gens. D'ailleurs, n'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man qatala mu'ahadan, quiconque tue celui que l'on appelle al-mu'ahad, wal-mu'ahad huwa shakhsun ghayru muslim dakhala bilad al-muslimin bi'aqdin wa fi hadha az-zaman hadha al-aqd huwa ta'shiratu dukhul al-balad fama dama anna غير مسلم دخل بلد مسلم بلد إسلام يحمل تأشيرة تسمح له بالدخول فمن قتله لم يرح رائحة الجنة لم يشم رائحة الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que celui qui assassine un individu que l'on appelle mu'ahad, c'est quelqu'un qui n'est pas musulman, et qui entre dans un pays musulman avec un pacte. Et les savants ont dit que le pacte, c'est l'autorisation d'entrée, qui se traduit par le visa de nos jours. Un non-musulman qui entre en terre d'islam, et qui est titulaire d'un visa, celui qui l'assassine ne sentira pas l'odeur du paradis, car il a commis un péché gravissime. Il a commis un péché gravissime, car on se doit de respecter les engagements. De même, comme les savants le notent, à titre d'exemple, le Cheikh Suleyman Ibn Salim Illah al-Rahayli, qui est un enseignant dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'université islamique de la ville de Médine, dit que sont concernés également tous ces gens qui commettent des crimes au nom de l'islam, prétendant par cela ou en cela sauver et secourir l'islam, le Coran et la Sunna. Au contraire, ils ne font que désobéir à Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils ont pu vivre dans un pays, si ce pays n'est pas musulman, ils ont pu y vivre en ayant un titre de séjour, c'est un pacte. Il devait être respecté. Ils ne t'ont donné ce titre de séjour que parce qu'ils t'ont donné la possibilité, toi, tu n'as pris ce titre de séjour que parce que tu as dû ou tu dois t'être engagé à respecter, notamment dans la sécurité. Eh bien, si tu agis ainsi, tu ne t'es en rien rapproché d'Allah Azza wa Jal et tu n'as en rien suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu seras concerné par ce chapitre. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous interdit de rompre le pacte, c'est une trahison et le musulman n'agit pas ainsi. D'où l'égarement des Khawarij. Des Khawarij, cette secte égarée, qui sont les premiers à rompre les pactes, wal'iyadu billah, et à remettre en doute la légitimité des engagements qu'il y a entre le musulman, le musulman, et celui qui n'est pas musulman. Et ça, c'est une faute et une très mauvaise compréhension, un égarement de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. طيب. Cheikh Salih al-Fawzan dit, فهذه العهود العامة والخاصة يجب الوفاء بها لأن نقض العهود من علامات المنافقين. C'est un devoir de respecter ces engagements, les engagements généraux et les engagements particuliers, car ne pas les respecter est une des caractéristiques des hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran des situations des hypocrites lorsqu'il nous dit وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ. Il y a parmi eux des gens qui ont pris l'engagement avec Allah. لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنْ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. En disant, si Allah nous fait don de sa grâce, nous donnerons très certainement des aumônes et nous serons du nombre des pieux. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ. Et quand il leur donna de ses grâces, ils se montrèrent avares. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Se détournèrent. Subhanallah. Ils ont donné un engagement envers Allah Azza wa Jal. Si Allah nous donne telle chose, on fera telle et telle chose. Mais quand Allah Azza wa Jal les a éprouvés en leur donnant cette chose qu'ils voulaient, eh bien, ils sont tombés dans les actions des hypocrites. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Allah Azza wa Jal a dit فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. Allah Azza wa Jal a mis dans leur cœur l'hypocrisie jusqu'au jour où ils le rencontreront. بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Ceci à cause de leur trahison envers leur pacte qu'ils avaient pris devant Allah et leur mensonge. Et d'autres textes aussi que nous a cités le Cheikh Saleh, notamment le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ayatul munafiqi thalath, les signes de l'hypocrite sont trois, parmi lesquels wa idha wa'ada akhlaf. Et lorsqu'il donne une promesse, il ne la tient pas. Lorsqu'il donne une promesse, il ne la tient pas. Tayyib. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا, dans le sens rapproché, alors que vous avez déclaré Allah garant de cet engagement que vous avez pris. Cheikh Salah al-Fawzan a dit le sens de cela est qu'Allah Azza wa Jal se venge de celui qui rompt le pacte. Allah tabaraka wa ta'ala yantaqimu mimman naqada al-ahd. Il se venge de celui qui rompt le pacte. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris ce pacte au nom d'Allah Azza wa Jal, au nom de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui a agi ainsi a trahi. Et cela est un grand manque dans son tawhid. Wal'iyadu billah. Voilà pourquoi agir ainsi est un péché immense. Cheikh Salih al-Fawzan a dit فَهَذِهِ الْآيَةُ فِيهَا شَاهِدٌ وَاضِحٌ لِلْتَرْجَمَةِ وهي النهي عن إخفار العهد ونقض العهد من غير مسوغ ومن غير سبب يقتضي ذلك. Ce verset témoigne du sujet. Le sujet, c'est le fait de ne pas respecter les engagements. Eh bien, ce verset porte bien sûr ce sujet-là, qui est l'interdiction de trahir son engagement sans excuse valable et acceptée religieusement. Ainsi s'achève là l'étude de ce chapitre et nous passons au chapitre suivant, Inch'Allah Ta'ala. L'auteur, rahimahullah Ta'ala, a dit Bab ma ja'a fil iqsami 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Chapitre suivant concernant le fait de jurer par Allah Azza wa Jal. Vous allez voir ce qui est voulu, inshallah ta'ala. Ici, ce qui est voulu, c'est celui qui jure par Allah tabaraka wa ta'ala pour déclarer que quelqu'un ne mérite pas la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Wal'iyadu billah. Ce que l'on appelle al-iqsam ala Allah Azza wa Jal, le fait de jurer par Allah, mais la traduction ici en français n'est qu'approximative. Elle n'amène pas à ce qui est véritablement voulu. Mais avec l'explication de ce chapitre, vous le comprendrez, inshallah ta'ala. Il y a deux façons de jurer par Allah Azza wa Jal. La première, القسم الأول من أقسام الإقسام على الله عز وجل هو الإقسام للحجر وللحظر. La première, c'est le fait, première partie, le fait de jurer par Allah Azza wa Jal pour restreindre quelque chose. Comme vous allez le voir, restreindre la miséricorde d'Allah, comme celui qui jure par Allah qu'Allah ne fera pas miséricorde à telle personne et qu'Allah ne pardonnera pas telle personne. Qui es-tu pour agir ainsi? Et c'est quelque chose d'extrêmement grave, comme nous allons le voir, puisqu'il est annulatif des actions de la personne qui agirait ainsi. Wal'iyadhu billah. Comme vous le verrez dans le hadith du chapitre et un autre que l'on lira, Inch'Allah ta'ala, qui le détaillera plus. Celui qui dit par exemple Wallahi la yaghfirullah lak. Par Allah, Allah ne te pardonnera pas. Soit parce que cet individu pense trop de bien de lui, au point où il se voit lui déjà pardonné, déjà qu'il entrera au paradis, et autre que lui, comme il n'est pas à son niveau, il sera privé du paradis. Wal'iyadhu billah. Ce genre de parole est une catastrophe dans la croyance, est une catastrophe dans le tawhid. Et le musulman doit prendre garde aux paroles qu'il prononce. Et il ne doit pas porter un tel jugement sur quiconque parmi les gens. Car combien sont les gens qui ont vécu toute leur vie dans l'égarement, dans le pire des égarements qui est le polythéisme. Et pourtant, Allah tabaraka wa ta'ala les a guidés. Pour certains, peu avant qu'il ne meure. Et cela, on le retrouve dans des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam rend visite à quelqu'un qui n'est pas musulman, qui n'est pas musulman, il n'est pas soumis à Allah azza wa jal. Il l'invite à Allah juste avant la mort. Il témoigne que nulle autre divinité qu'Allah mérite réellement l'adoration, puis il meurt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: loué soit Allah qui l'a préservé du feu. Pendant que d'autres ont vécu dans la piété toute leur vie, wal'iyadhu billah, et se sont égarés. Ils se sont égarés et ont même quitté l'islam, wal'iyadhu billah. Il n'appartient à personne de dire qu'un tel est voué au feu, ne sera pas pardonné, tout comme il n'appartient à personne de dire que il est trop tard pour telle et telle personne, elle ne reviendra pas, que ce soit à l'islam ou dans l'islam à la sunna ou dans la sunna vers les péchés, des péchés vers la piété, on ne peut pas porter ce genre de jugement. La deuxième catégorie, c'est le fait, ce que l'on appelle al-qasamu alladhi mansha'uhu husnu dhanni billahi azza wa jal. Le fait de jurer en disant wallahi, j'aurai telle chose, ou il y aura telle chose, mais dans le sens où la personne n'est pas orgueilleuse, mais simplement elle a une bonne opinion d'Allah. En fait, c'est comme un espoir qu'elle a d'Allah Azza wa Jal. Ici, il n'y a absolument aucun mal par rapport à son tawhid, tout au contraire, c'est quelque chose de bien. Et d'ailleurs, on le verra sûrement dans un hadith, Inch'Allah Ta'ala. Quoi qu'il en soit, voici le sujet qui est voulu de ce chapitre. Lisons un peu ce que dit le Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafidhahullah. والحلف على الله فإن كان هذا الحلف على الله بأنه لا يرحم عباده ولا يغفر لهم ولا يدخل أحدا ولا يدخل أحدا منهم الجنة فهذا محرم وهو سوء أدب مع الله تعالى لأن معناه الحجر على الله تعالى ولا أحد يمنع الله من أن يتصرف في خلقه وأن يرحم من شاء ويعذب من شاء وأن يغفر لمن شاء. Ce qui est voulu par ce chapitre, comme le dit le Cheikh Salih Al-Fawzan, c'est le fait de jurer par Allah comme celui qui jurerait pour déclarer qu'un tel et un tel ne sont pas dignes d'entrer au paradis ou d'être pardonné par Allah Azza wa Jal. Nul ne peut empêcher Allah de faire ce qu'il veut, de faire miséricorde à qui il veut et châtier qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Celui qui agit ainsi aura alors eu un mauvais comportement envers Allah, subhanahu wa ta'ala, et aura manqué de respect à son Créateur, azza wa jal. Ainsi, il aura entaché son tawhid et il deviendra alors défaillant. Voici pourquoi l'auteur l'a cité dans Kitab ou Tawhid, pour montrer le respect d'Allah Azza wa Jal et le fait de ne pas porter de tels jugements que seul Allah peut faire, subhanahu wa ta'ala. Puis le Cheikh Salih Al-Fawzan a cité les deux catégories de jurer par Allah Azza wa Jal dans ce contexte-là. Celui qui jure par Allah pour dire un tel ne sera pas pardonné. Nous en avons vu le jugement. Et celui qui jure par Allah Azza wa Jal en pensant du bien et en ayant une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, celui qui jure par Allah Azza wa Jal qu'Allah va faire un bien, qu'il va pardonner à ses serviteurs. Ou celui qui jure par Allah qu'Allah va donner la pluie. Là, il a juré par Allah. Mais est-ce que l'on dit de lui qu'il a fait comme le premier ? Il a porté un jugement qu'il ne doit pas faire, non. Et c'est ce que l'on voit dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rubba ash'atha aghbar dhi timrain madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah » Peut-être qu'il y a un homme ayant les cheveux ébouriffés. Il a les cheveux complètement décoiffés, son apparence n'est pas très attirante, on ne voit pas quelque chose de spécial en lui. Il est peut-être rejeté par tout le monde, à toutes les portes, les gens n'en veulent pas, les gens ne veulent pas le fréquenter. Mais s'il jurait par Allah, qu'Allah lui donnerait quelque chose, il lui donnerait immédiatement. Subhanahu wa ta'ala. Cette façon de jurer par Allah n'est pas blâmée. Est-ce que vous avez compris la différence ? Tayyib. Voici le sujet du chapitre. L'auteur, rahimahullah ta'ala, dit An Jundub ibn Abdillah, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala rajulun, wallahi la yaghfirullahu li fulan, فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم والله أكبر. L'imam muslim rapporte d'après Jundub, fils d'Abdullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un homme a dit, je jure par Allah qu'Allah ne pardonnera jamais à un tel. Allah dit alors, qui donc se permet de jurer que je ne pardonnerai jamais à un tel? J'ai pardonné à ce dernier et annulé tes œuvres. » On parle de quoi ici? Il y a deux personnes. Et c'est avec l'autre hadith que l'on va voir exactement de qui est-ce que l'on parle. Une personne en a vu une autre qui commettait des péchés avec insistance, sans jamais les arrêter. Au point où la personne qui a vu celle qui commet ses péchés a dit par Allah, Allah ne lui pardonnera jamais. Allah s'est mis en colère, Azza wa Jal, et a dit qui peut prendre ma place? Qui peut donner un tel jugement? Et à cause de cette phrase, la personne pécheuse s'est fait pardonner et la personne qui était pieuse à la base a détruit toutes ses actions. Wal'iyadu billah. Et c'est pour ça que l'imam Abu Huraira radiyallahu anhu a dit « Takallama bi kalima awbaqat dunyahu wa akhiratah » Cet homme a prononcé une parole qui a détruit sa dunya et al-akhira, son bas monde et sa rencontre d'Allah Azzawajal dans l'au-delà. Lisons maintenant l'autre hadith qui nous explique de qui est-ce que l'on parle. Le hadith a été jugé par authentique par l'imam al-Albani rahimahullah et a été rapporté par plusieurs parmi les savants, notamment l'imam al-Tahawi et l'imam al-Baghawi fi sharh al-sunnah. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين. Il existait deux hommes au temps des Banu Israël qui avaient une relation fraternelle. فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة. L'un d'entre eux était pêcheur. Le second fournissait des efforts dans l'adoration. فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ أَقْصِرْ أي توقف أقصر فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أي الأمر بيني وبين الله تركني. Celui des deux qui redoublait d'efforts dans l'adoration a vu le pécheur un jour et lui a dit « Cesse de pécher, arrête-toi ici ». Il lui disait cela régulièrement et l'autre ne l'écoutait pas. Un jour, quand il l'a rencontré, alors qu'il commettait un péché, il lui a répété cette parole « Aqsir, cesse de pécher, arrête-toi ». L'homme lui a dit « Laisse-moi avec mon Seigneur ». Il lui a dit « Abu'ithta alayya raqiba » As-tu été envoyé pour me surveiller? Et à ce moment-là, il a dit فَقَالَ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ وَلَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةِ وَلَا يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةِ Subhanallah. Il a dit par Allah, Allah ne te pardonnera pas et il ne te fera pas entrer au paradis. فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا Allah leur a donné la mort par la suite, aux deux. فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ils se sont réunis auprès du Seigneur des mondes. فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ Allah Azza wa Jal a dit à cet homme qui redouble d'efforts dans l'adoration أَكُنْتَ بِي عَالِمًا أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا Étais-tu connaisseur de c'est-à-dire de mon jugement, dans le sens rapproché de ce que j'allais donner comme jugement, ou avais-tu emprise sur moi? وقال للمذنب et Allah a dit au pécheur اذهب فادخل الجنة برحمتي va-t'en et entre au paradis par ma miséricorde. وقال للآخر et il dit à l'autre اذهب إلى النار va au feu. الله أكبر. قال أبو هريرة أبو هريرة a dit والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main qu'il a parlé et qu'il a dit une parole qui lui a détruit son bas monde et son au-delà. Donc ça te montre que le musulman ne doit pas s'enorgueillir. Il ne doit pas se croire meilleur que l'autre. Mais il doit demander à Allah de le raffermir, de l'aider, de le maintenir. Ne te fais pas tromper par ton âme, par toi, par ta personne, par tes bonnes actions. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir et tu ne sais pas comment est-ce que tu vas mourir. Et lorsque tu vois des gens égarés, ne sois pas heureux. « La tafrah bi dalal al-nas, bi kufr al-nas, bi ma'asi al-nas, bi fisq al-nas, bi su'i khuluq al-nas » N'éprouve pas de la joie lorsque tu vois des gens égarés, des gens loin du tawhid, des gens dans le shirk, des gens dans la bid'a, des gens dans l'égarement. N'éprouve pas dans ton cœur de la joie, car ce sera un grand problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été plein de pitié pour son peuple. Azizun alayhi ma anittum. Un messager auquel pèsent lourd les difficultés que vous portez. Allah Azza wa Jalla s'adresse au peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Harisun alaykum. Il est motivé pour vous, pour votre guider. Bil mu'minin ra'uf rahim. Et particulièrement pour les croyants, il est compatissant et miséricordieux. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le musulman prend garde à tout cela. Et demande à Allah Azza wa Jal de le raffermir. Il y a dans ce chapitre le danger de la langue. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un individu peut prononcer une parole à laquelle il ne fait pas attention et à cause de laquelle il tombera dans le feu. Dans une distance plus loin que celle qui sépare les cieux et la terre. Wal'iyadhu billah. Ou le levant et le couchant du soleil, c'est-à-dire l'est et l'ouest. Allahumma arhamna, Allahumma thabbitna ya rabbal alamin. Tayyib. Fanahmadullah azza wa jal ala sunnah, ala din. On remercie Allah tabaraka wa ta'ala de nous avoir guidés dans la sunnah. De nous avoir fait connaître la religion, nous, les faibles serviteurs et les grands pécheurs. Walladhi satarana est celui qui nous a couverts. Car comme l'a dit le poète, Wallahi law alimu qabiha sarirati la aba salama alayya man yalqani. Wala a'radu anni wa mallu suhbati wala bu'tu ba'da karamatin bihawani. Le Cheikh dans Nouniyat al-Qahtani, rahimahullah, il dit que si les gens connaissaient la mocheté de mon intérieur, le mal que je contiens, les secrets, les maux que j'ai faits, celui qui me rencontre aurait détesté me saluer. Il ne m'aurait même pas salué. Et les gens se seraient lassés de s'asseoir avec moi. Ils se seraient tous détournés de moi. Et après avoir été honoré, j'aurais été humilié. Allahu Akbar. Tayyib. Les conclusions à tirer de ce chapitre. Premièrement, l'interdiction formelle de jurer par Allah Azza wa Jal comme l'a fait cet homme. Je jure par Allah qu'il ne pardonnera pas, qu'il ne guidera pas un tel, qu'il ne fera pas miséricorde à un tel. Tout ceci est formellement interdit. Deuxièmement, khatarul lisan, le danger de la langue. Nas'alullah as-salamata wal afiya. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Troisièmement, al-jannatu wa an-nar, le paradis et l'enfer, aqrabu ila ahadina min shirakin alayh, sont plus proches de l'un d'entre nous, ou de nous, tout simplement, que nos sandales, que la semelle de nos sandales. Qu'est-ce que cela veut dire? Il entend par là, rahimahullah, que al-jannah wa an-nar, le paradis et l'enfer, ne sont pas aussi loin que ça. Tamut al-yawm, si tu meurs par exemple aujourd'hui, ma'aluka ma'ruf, ta destination va être connue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par exemple de celui qui lit ayat al-kursi, man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salah, celui qui lit le verset ayat al-kursi après chaque prière, dans le sens du hadith, lam yamna'hu min dukhul al-jannah illa an yamut. La seule chose qui l'empêche d'entrer au paradis sera qu'il meure. Et de là, les savants ont pris que baynaka wa bayna dukhul al-jannah al-maut. Il y a entre toi et l'entrée au paradis la mort. Wa baynaka wa bayna dukhul an-nar wa bayna al-mustahiq lin-nar wa dukhulihi lin-nar. Et il y a entre celui qui mérite le feu et son entrée au feu, il n'y a que la mort. Donc on voit ici la gravité de la question, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de tout cela. Cheikh Saleh Al-Fawzan nous donne une bonne faïda. Il nous dit, « Fil hadith dalilun ala wujub al-tahaffuz inda inkar al-munkar » من الكلام الذي يكون وبالا على صاحبه. Il y a dans ce hadith la preuve qu'il est un devoir de préserver nos paroles lorsque l'on réprimande un mal. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un commettre un interdit et faire un mal. Tu veux réprimander cette personne, ce qui est tout à fait normal. C'est recommandé, c'est prescrit par Allah Azza wa Jal. Mais de quelle façon? Là est le problème pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens vont vouloir changer le mal, réprimander le mal, vont vouloir orienter quelqu'un vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vont vouloir disputer quelqu'un qui commet un mal, mais d'une mauvaise façon. Et ils vont dire de mauvaises paroles. Regardez ce qui est arrivé à cet homme-là. لأن بعض الناس عند إنكاره المنكر قد تحمله الغير قد تحمله الغيرة فيتكلم على العصاة والمخالفين بكلام لا يليق. Cheikh Al-Fawzan nous dit, il y a certains gens qui, pris par la jalousie envers leur religion ou l'amour pour leur religion, vont réprimander des contrevenants, des gens qui désobéissent à Allah Azza wa Jal, en tenant des propos qu'il ne convenait pas de tenir. فَيَكُونُ إِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَوَبَالُهُ عَلَيْهِ. Et alors, il prend un péché. Tu viens pour corriger un mal, et à la fin, c'est toi qui pars avec un mal. فَفِيهِ أَنَّ الْإِنسَانَ يُنْكِرُ الْمُنْكَرَ بِضَوَابِطِ. L'homme qui veut réprimander le mal doit réunir des règles à connaître. وَلَا يَنْدَفِعُ فِي الْإِنْكَارِ إِلَى حَدٍ يَزِلُّ فِيهِ بِلِسَانِهِ أَوْ بِيَدِهِ. Il ne doit pas arriver à la limite où il va glisser avec sa langue et sa main, celui qui veut réprimander un mal et qui va violenter quelqu'un, ou alors insulter quelqu'un, ou alors porter un jugement sur quelqu'un qui ne le mérite pas. فَيَقَعُ فِي مُنْكَرٍ أَشَدٍ. À cause de cela, cette personne tomberait dans un mal bien plus grand. فَإِنْكَارُ الْمُنْكَرِ لَهُ ضَوَابِطٍ. Interdire le mal a des règles à respecter. يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. Dans le sens rapproché du verset, Allah Azza wa Jal nous dit: invite les gens au sentier de ton Seigneur avec la sagesse et la bonne exhortation et débat avec eux de la bonne manière. Il nous dit aussi, subhanahu wa ta'ala, wa qulu lin-nasi husna, et dites aux gens de bonnes paroles. Il nous dit aussi, wa idha qultum fa'dilu, et lorsque vous dites, lorsque vous tenez des propos, soyez juste. Lorsque tu veux conseiller quelqu'un, lorsque tu veux corriger quelqu'un, lorsque tu veux tout simplement réprimander un mal, tu dois le faire de la bonne manière. Et tu ne dois pas devenir l'injuste. Mais tu dois le faire avec science et justice. Bi'ilm wa adl. Et c'est de cette façon que l'on invite les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi nous achevons l'étude de ce chapitre. L'auteur rahimahullah ta'ala dit: Babun la yustashfa'u billahi ala khalqih. Le chapitre suivant, on ne demande pas à Allah d'intercéder auprès de ses créatures. لأن هذا سوء أدب مع الله عز وجل. Et donc vous le comprendrez, tous ces chapitres en ce moment traitent du mauvais comportement envers Allah. Et c'est le lien entre les chapitres. مناسبة هذه الأبواب أنها مشتملة على سوء أدب مع الله عز وجل. C'est un mauvais comportement, car comme le dit le Cheikh Abd al-Razzaq, الأمر بيد الله وحده لا شريك له. Tout l'ordre est dans la main d'Allah عز وجل. فكيف يستشفع بالله على خلقه. Comment est-ce que l'on peut demander à Allah عز وجل d'intercéder auprès de sa créature? Comme si tu voulais obtenir quelque chose d'une créature. تطلب شيئا من شخص فتستشفع بالله تسأل الله أن يشفع لك عند هذا الشخص. هذا هو الاستشفاع بالله على خلقه. وهذا ينقص التوحيد وهو محرم. ولهذا ذكره في كتاب التوحيد وهي المناسبة. L'auteur Rahimallah a cité ce chapitre dans Kitab ou Tawhid, car agir ainsi est interdit et huwa jinaya limaqam al-rububiyya. Cela amène à ne pas reconnaître la rububiyya, la seigneurie d'Allah comme elle se doit. Comment est-ce que l'on peut demander à Allah d'intercéder auprès d'une créature? Si tu as besoin de quoi que ce soit, lève tes mains et demande à Allah, le possesseur, le créateur, le bienfaiteur, subhanahu wa ta'ala. Falistishfa, le fait de demander l'intercession, est quelque chose que l'on fait min al-adna ila al-a'la. La min al-a'la ila al-adna. On demande à celui qui est plus bas d'intercéder auprès de celui qui est plus haut. On ne demande pas à celui qui est plus haut d'intercéder auprès de celui qui est plus bas. C'est une erreur que d'agir ainsi. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ وَالِاسْتِشْفَاعُ هُوَ طَلَبُ الشَّفَاعَ. La demander la shafa'a. طيب. L'auteur rahimahullah a cité un récit qui a été rapporté par l'imam Abu Daoud rahimahullah ta'ala et que nous allons lire, mais il est à noter que les savants ont divergé sur l'authenticité de ce récit, de ce hadith. Parmi les anciens, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah et son élève Cheikh al-Islam ibn al-Qayyim rahimahullah hassana hadha al-hadith, ont jugé bon ce récit. Wa min al-mu'asirin, et parmi les contemporains, Cheikh al-Albani wa Cheikh Muqbil رحمهما الله ضعفا هذا الحديث. الإمام الألباني مقبل كالله فاس ميزيريكورد ont jugé faible ce hadith. وعلى كل حال المعنى صحيح. Quoi qu'il en soit, le sens est correct. فنقرأه. عن جبير بن مطعم قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه وذكر الحديث رواه أبو داود. D'après Jubair ibn Mut'im, qu'Allah l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un bédouin vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, ô prophète d'Allah, les âmes périssent, les familles crient famine et les biens sont anéantis. Invoque donc ton Seigneur pour nous afin qu'il fasse descendre la pluie, car nous demandons qu'Allah intercède auprès de toi et que tu intercèdes auprès de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, Subhanallah, Subhanallah, il ne cessa de glorifier Allah jusqu'à ce que cela se vit sur le visage de ses compagnons. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, malheur à toi, sais-tu seulement qui est Allah? L'éminence d'Allah est bien plus importante que cela. On ne demande pas à Allah d'intercéder auprès de qui que ce soit, puis il cita le hadith. Et comme nous l'avons déjà vu, le récit a été jugé faible par l'imam al-Albani rahimahullah et d'autres, et il a été jugé bon par d'autres. En tout cas, le sens est correct. La yustashfa'u billah ala ahadin min khalqih. On ne demande pas à Allah d'intercéder auprès de sa créature, subhanahu wa ta'ala. Et comme nous l'avons vu, l'auteur rahimahullah, même s'il cite dans son écrit des hadiths dont l'authenticité peut être discutable, il ne le fait que si le sens des hadiths est appuyé par des textes et est correct. C'est pour cela que vous ne trouvez pas dans Kitab al-Tawhid un hadith qui a été jugé faible par les savants sans qu'il ne soit appuyé, à l'exception de l'histoire de فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا, ce chapitre-là avec l'histoire de Iblis. Sinon, à part ça, les hadiths sont appuyés, le sens est bon. طيب. Donc, il est dit ici que l'on ne doit pas demander l'intercession d'Allah Azza wa Jal auprès d'une créature. Et cela est clair, la raison est claire pour vous. On relate ici ce que l'on appelle al-istisqa, qui est la demande de pluie. Et cela fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la sécheresse, de réunir les compagnons et de prier, puis exhorter ses compagnons. Un peu comme la prière du vendredi, en deux rak'a, puis d'invoquer Allah Azza wa Jal en lui demandant de faire tomber la pluie. On appelle cela al-istisqa, la demande de pluie. Et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la sécheresse, les compagnons se dirigeaient vers lui et lui demandaient d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'Allah Azza wa Jal fasse tomber la pluie. Il n'y a pas de mal en cela, c'est même prescrit et légiféré. Par contre, demander à Allah d'intercéder auprès d'une créature, ceci est formellement interdit, car c'est comme si la personne n'avait pas reconnu la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ashir Salah al-Fawzan nous dit « كذلك المسلمون يطلبون من علمائهم وولاة أمورهم ومن الصالحين منهم أن يدعوا ربهم عز وجل بالسقيا وهذه سنة ثابتة. » C'est ainsi que les musulmans sollicitent leurs savants et leurs détenteurs de l'autorité parmi les pieux afin qu'ils invoquent leur Seigneur pour qu'il fasse tomber la pluie. Ceci est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque l'on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit subhanallah, subhanallah, pourquoi subhanallah est venu à ce moment-là? Au moment où on a dit nastashfi'u billahi alayk, nous demandons à Allah d'intercéder pour toi. À ce moment-là, on répond subhanallah. Pourquoi? Car comme nous l'avons vu déjà, subhanallah ma'na tanzihullah 'ani an-naqa'is wa min an-naqa'is an yustashfa'a bihi 'ala ahadin min khalqihi. فَلِذَلِكَ جَاءَ قَوْلُ سُبْحَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الْمَوْطِينَ فِي غَيَةِ الْمُنَاسَبَةِ. On dit subhanallah pour déclarer Allah exempt de tout manquement, de tout défaut, loin de toute défaillance. Et c'est une défaillance de demander à Allah Azza wa Jal d'intercéder auprès de sa créature. Et Allah est exempt de cela, c'est pour ça que la parole subhanallah est venue ici. طيب. Le hadith, nous en avons vu les paroles des savants par rapport à son jugement, mais le chapitre a toute son importance dans Kitab al-Tawhid. Al-Sheikh Saleh al-Fawzan nous dit qu'il y a des leçons à conclure de ce chapitre. Premièrement, la preuve de ce que l'on appelle Salat al-Istisqa, la prière de demande de pluie, comme nous l'avons vu ici. Et Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullah, a montré que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, allaient le voir de son vivant. Ils allaient le voir pour lui demander, « Demande à Allah de faire tomber la pluie, ô messager d'Allah. » Puis quand il mourut, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons n'allaient pas à sa tombe. Il n'allait pas à sa tombe pour dire « Ô messager d'Allah, demande à Allah la pluie. » Car une fois mort, l'humain ne t'est plus utile, même s'il est un messager, un prophète. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient voir des proches du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notamment Al-Abbas, radiyallahu anhu, le père de Abdullah et de l'Fadl, des grands sahaba, radiyallahu ta'ala, anhum. Ainsi, se rendre à la tombe pour demander au nom de ce hadith est complètement faux. Il est complètement faux. Taïeb. Deuxièmement, la preuve qu'il faut réprimander le mal. On l'a vu de façon claire. De toute façon, on l'a vu dans le chapitre précédent, mais dans ce hadith, eh bien, on voit que le mal a été réprimandé. Troisièmement, l'interdiction de demander à Allah d'intercéder auprès d'une créature. C'est le but et le sujet du chapitre. Quatrièmement, il est permis طلب الدعاء والاستشفاع بالحي جائز de demander l'intercession d'un vivant est autorisé. فَتَسْأَلُهُ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ لَكَ. Tu lui demandes d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en ta faveur. هذا استشفاع. ولكن في هذه الحالة جائز بلا شك. C'est une demande d'intercession. Dans ce cadre-là, nul doute quant à la permission de cela, d'aller voir quelqu'un dont tu connais l'intégrité et la piété pour lui dire « N'oublie pas de d'invoquer Allah en ma faveur. Demande à Allah de me pardonner, de me protéger. Il n'y a aucun mal à cela. » Cinquièmement, « Mashru'iyatu ta'alim il-jahil. » Il est légiféré d'enseigner à l'ignorant. Lorsque tu vois un ignorant commettre une erreur face à toi, il t'est demandé, si tu as la science et le savoir, de corriger cette erreur et d'enseigner à cet ignorant ce qu'il ne savait pas. Et enfin, مشروعيه التسبيح والتكبير عند حصول امر منكر او امر عجيب بدل التصفيق الذي احدثه من يقلدون الكفار. Le fait de dire Subhanallah et Allahu Akbar lorsque l'on voit un mal et aussi lorsque l'on voit quelque chose d'étonnant et quelque chose qui procure la joie. Souvenez-vous le hadith de Zatu Anwat, le hadith de Abu Waqid Al-Laythi qui dit nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous avons vu les associateurs, les polythéistes qui accrochaient leurs armes à un arbre, c'est-à-dire pour en prendre la bénédiction. Nous avons dit la même chose nous aussi. فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلْنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahu Akbar innaha sanan ila akhir al-hadith. Il s'est énervé et a dit Allahu Akbar. Et dans plusieurs hadiths, on voit qu'il dit Subhanallah. Des fois, il dit Allahu Akbar. C'est une sunnah, contrairement à ceux qui applaudissent. Notre guidée à nous, c'est de dire Allahu Akbar et de dire Subhanallah, non pas d'applaudir. Et ainsi s'achève l'étude de ce chapitre. Il nous restera deux chapitres à étudier. Si Allah nous donne l'autorisation et la permission, Subhanahu wa ta'ala, Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم نسألك التوفيق إلى كل خير وأن تشرح صدورنا للعلم والعمل الصالح وأن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أتم علينا نعمتك بختام تدريس ودراسة هذا الكتاب المبارك النافع إنك سميع قريب مجيب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك